écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Si nous voulons mettre en œuvre d'une façon intelligente et efficace cette nécessité du retour à l'école, nous devons le faire de façon ingénieuse. Bien entendu, il ne peut pas se faire au prix de la santé.
Le gouvernement prépare donc un plan de sortie du confinement à partir du 11 mai avec des aménagements au cas par cas, une reprise progressive. Toutes les écoles pourraient ne pas être ouvertes au même moment. Victor Delande nous dit dès le début de ce journal quelles sont les pistes envisagées. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser pour le 6e jour consécutif. Dans le Grand Est, la situation commence à s'éclaircir à tel point que l'hôpital de Mestionville envisage de reprendre les opérations non urgentes qui avaient été reportées. Amazon France doit restreindre son activité. La justice lui demande de ne livrer désormais que les produits de première nécessité. Ses salariés ne sont pas suffisamment protégés. La marche arrière sur Europe 1 du patron des patrons. Travailler plus après le confinement. Le MEDEF referme le débat. C'est un phénomène en recrudescence en ces temps de confinement. La délation. Certains n'hésitent pas à appeler leur maire pour dénoncer leurs voisins.
Le jour où j'ai décidé de réagir, c'est vraiment le jour où j'ai reçu pour la première fois des photos de voisins prises de derrière une et en disant voilà, mes voisins sont sortis, c'est pas la première fois aujourd'hui.
Un maire en colère qui dit stop à la délation. Le Festival d'Avignon, comme tant d'autres, à son tour contraint à l'annulation. La ville est sous le choc.
C'est extrêmement tragique pour tous les artistes qui doivent se produire à Avignon et qui ne pourront pas le faire. Ça l'est pour les théâtres qui vont se retrouver dans des situations financières très compliquées.
Et puis le Tour de France sera-t-il reporté? Plusieurs pistes sont sur la table, nous dira Axel May. Le temps demain ressemblera beaucoup à celui d'aujourd'hui avec une dominante de soleil. Mais attention, ça va se dégrader dans le sud l'après-midi où le tonnerre devrait gronder, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé ce soir légèrement dans le vert, plus 0,38% porté par les nouvelles mesures de soutien de la Fed et par un début de déconfinement en Europe. Didier Hamot de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Thomas de Richebourg, le président de la branche environnement du groupe du même nom. On parlera avec lui du travail des éboueurs qui a été mis en avant hier par Emmanuel Macron dans son intervention.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron a donc éclairci un peu l'horizon des Français hier soir en évoquant la fin possible du confinement pour le 11 mai, mais beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes subsistent, notamment sur la question des dépistages et également sur les modalités de réouverture des écoles. Les parents et les enseignants se posent beaucoup de questions. On en sait un peu plus quand même aujourd'hui, Victor Delande, avec d'abord cette précision importante. Victor, non, tous les élèves ne retourneront pas en classe en même temps.
Effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a précisé ce matin. Toutes les écoles ne seront pas ouvertes au même moment et à l'intérieur de chaque établissement, la reprise devrait être progressive, voire alternée par petits groupes. Les classes devraient être partagées en deux ou en trois pour que les élèves ne soient pas trop nombreux dans la cour de récréation. Au moins durant la période de l'épidémie, les enfants pourraient donc avoir classe avec un système de rotation un jour sur deux ou alterner le matin et l'après-midi. Lors des questions au gouvernement en début d'après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a également évoqué la nécessité de garantir la sécurité sanitaire lors de cette reprise.
Si nous voulons mettre en œuvre d'une façon intelligente et efficace cette nécessité du retour à l'école, nous devons le faire de façon ingénieuse, en garantissant les moyens de protection, en vérifiant si nous pouvons réellement, et dans quel endroit, adapter l'organisation de la journée ou adapter les lieux à des règles qui permettraient, dans de meilleures conditions, à la fois de pouvoir faire cours et en même temps de garantir la sécurité sanitaire.
Et sur ce point, le ministère de l'Éducation nationale pourra s'appuyer sur une expérience qu'il connaît. Depuis la fermeture des écoles, il y a un mois, seuls les enfants du personnel soignant sont accueillis dans les établissements avec des règles d'hygiène très strictes, du gel hydroalcoolique, du savon, ainsi que des masques reçus la semaine dernière sont à leur disposition. Avant la reprise, toutes les salles de classe seront également désinfectées. Reste à savoir si les enfants devront tous porter un masque, comment s'organiseront les moments communs comme les déjeuners à la cantine, les transports scolaires, le temps périscolaire, bref, autant de modalités très précises qui restent à affiner. Jean-Michel Blanquer a commencé à recevoir les syndicats pour mettre en place justement le meilleur accueil possible le 11 mai prochain.
Mais même dans ces conditions, Victor, ça suscite beaucoup d'inquiétudes.
Oui, énormément, même du côté des parents d'élèves. On ne comprend pas cette rentrée si rapide. Comment on va pouvoir s'organiser un accueil dans les meilleures conditions en moins de 4 semaines, sachant qu'il y a 2 semaines de vacances au milieu, s'interroge une responsable nationale de parents d'élèves. La FCPE et la PEP, les deux principales fédérations de parents d'élèves, réclament des moyens et notamment des tests avant la reprise des cours. Et du côté des syndicats de professeurs, on s'inquiète aussi de la santé du personnel enseignant. Les infrastructures des établissements scolaires ne sont pas adaptées pour mettre en place des gestes barrières efficaces, s'inquiète un responsable syndical du secondaire qui conclut « Pour le moment et sans réponse claire à des questions logistiques précises, les professeurs ne sont pas du tout rassurés à l'idée de reprendre dans un mois ».
Les précisions de Victor Dolande du service Société d'Europe 1. 762 décès supplémentaires en 24 heures. C'est le nouveau bilan fourni ce soir par le directeur général de la Santé. Et il est lourd, il s'agit même du plus lourd depuis le début de cette pandémie. Mais le nombre de patients en réanimation continue, lui, de baisser pour le 6e jour consécutif, 91 de moins qu'hier. Et cette baisse de patients en réanimation, on la constate notamment dans le Grand Est, région qui a été particulièrement touchée, on le sait, dès le début de cette pandémie. À l'hôpital de Metz-Thionville, notamment, à tel point, Arthur Elmbacher, que les médecins envisagent de reprendre l'activité classique, c'est-à-dire les opérations non urgentes.
Oui, pour les patients qui attendent, qui voient depuis un mois maintenant les Covid leur passer sous le nez, prendre leur place à l'hôpital, évidemment ça s'explique. Ces patients en urgence, pas vitale mais pressante, de plus en plus pressante, pour reprendre les mots du chef de la réa de l'hôpital de Metz, de la chirurgie cardiaque parce que l'infarctus menace, des hernies, des vésicules biliaires, on a une fenêtre de tir, dit-on à Metz. Alors ça va se faire en douceur, pas tout de suite, d'ici 8-10 jours, remise en route d'une partie du bloc opératoire. Cette fenêtre de tir, pourquoi ? Parce que l'activité coronavirus reste élevée mais baisse. Les appels au 15, au niveau de l'avant-crise, soufflent les médecins messins. La pression sur les urgences en baisse. Les lits de réa, un tiers sont libres à présent au CHR. Donc, quand tout ça sera, on va dire, consolidé, retour d'une partie de ces opérations mises en veille jusqu'à présent, on va pouvoir en écluser un peu, me dit-on, avec, et c'est important, en ligne de mire, le 11 mai est la possibilité de la fameuse deuxième vague. C'est pour ça que nous ne désarmerons rien, dit la directrice de l'hôpital de Metz. On devra être capable de réactiver nos moyens en 24-48 heures. S'il y a une deuxième flambée de coronavirus, dit-elle, on fera marche arrière. Tous les lits redevenus classiques redeviendraient, si on peut dire, des lits de réanimation pour les malades Covid-19.
Arthur Elmbacher, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. Sachez par ailleurs qu'un nouvel essai est sur le point de débuter. Nouvelle étude lancée par les hôpitaux de Paris pour tester l'efficacité de 2 médicaments, dont la chloroquine. Cet essai sera mené sur 900 soignants, mais les résultats ne sont pas attendus avant 2 mois.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et l'ambassadeur de Chine en France, convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lui a signifié sa désapprobation vis-à-vis de certains propos récents. Il faisait référence à un texte publié dimanche sur le site de l'ambassade de Chine en France, intitulé « Rétablir des faits distordus, observation d'un diplomate chinois en poste à Paris ». Ce texte accuse notamment les membres du personnel soignant français des établissements pour personnes âgées d'avoir abandonné leur poste du jour au lendemain, laissant mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie. Amazon France, épinglé, le géant du commerce en ligne, sommet de restreindre son activité et de se limiter désormais à la livraison de produits essentiels sous peine d'amende. Cela faisait des semaines que les syndicats alertaient sur le manque de protection des employés des entrepôts logistiques. On vous en avait parlé d'ailleurs sur Europe 1. Eh bien, Clément Le Saffre, la justice leur donne raison.
Tout à fait. Dans son jugement, le tribunal de Nanterre estime que, je cite, « Amazon a de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. Par conséquent, Amazon va devoir procéder à une évaluation précise des risques sanitaires dans ses entrepôts. Et d'ici là, eh bien, il lui est interdit de livrer des produits non essentiels. Concrètement, si vous passez commande sur Amazon, vous ne pourrez recevoir que des denrées alimentaires, des produits d'hygiène ou des appareils médicaux. Exit, en revanche, les livres ou les vêtements. Et cette décision est accueillie avec soulagement par les syndicats. Antoine Delorme est délégué CGT d'Amazon à Chalon-sur-Saône.
Aujourd'hui, on a beaucoup de salariés qui sont revenus sur leur lieu de travail avec la boule au ventre. C'est pas des conditions optimales pour venir travailler. Et en effet, pour envoyer des chaussures et des vêtements, on comprend pas trop le but. On n'est pas dans une position d'attaquer Amazon sur l'activité ou quoi. On est simplement dans une mesure de protection de santé des salariés.
Alors Amazon a réagi, l'entreprise exprime son désaccord avec la décision du tribunal. Elle assure que rien n'est plus important que la sécurité de ses collaborateurs et qu'elle a équipé ses entrepôts de gel, de masques et de lingettes. Et elle ajoute qu'elle apportera tous les éclaircissements nécessaires à la justice.
Les précisions de Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. La récession en France va atteindre 8%, le déficit 9%, le coût du chômage partiel est maintenant estimé à 24 milliards d'euros. Le budget rectificatif sera présenté demain. Dans ce contexte, le rétro-pédalage sur Europe 1 aujourd'hui du patron des patrons qui est revenu sur une petite phrase qui avait fait beaucoup de bruit. Il avait en effet déclaré qu'il faudrait bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés, des congés payés pour accompagner la reprise économique. Eh bien, à la mi-journée, le président du MEDEF a donc fait marche arrière et c'était donc sur Europe 1.
Sur le travail et plus, entendons-nous bien, dans quelques mois, j'espère que la demande repartira. On peut espérer qu'après l'été, en septembre, on aura des entreprises qui auront du retard de production à rattraper. Et l'idée, c'était de travailler plus, mais pour gagner plus. C'est pas comme je l'ai lu, pour gagner moins. Après, ça ne peut se faire que dans le dialogue social avec les syndicats par entreprise. J'ai vu la réponse des syndicats, donc le débat est clos d'une certaine manière, puisque les syndicats ont tous répondu plus ou moins fortement qu'il n'en était pas question. Il faudra qu'on trouve quand même un espace de discussion à la rentrée. Encore une fois, on n'est sûr de rien. Mais ce que je crains, moi, beaucoup, c'est des faillites. Et même si il y a toutes les aides, il y a un moment où quand on est à moins 50 du chiffre d'affaires, toutes les aides du monde ne pourront pas empêcher des dépôts de bilan.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF, invité à la mi-journée d'Elisabeth Assayag et de Pierre de Villeneau. En cette période de confinement, le téléphone des policiers, mais aussi celui des maires, n'arrête pas de sonner, semble-t-il, des appels de délation pour dénoncer des personnes qui ne respectent pas le confinement. Et face à la recrudescence de ces appels, eh bien, ces élus disent stop, Pauline Jacquot.
Oui, parce que la plupart du temps, c'est totalement inutile. Il faut laisser travailler la police. C'est le message répété par la maire du 20e arrondissement de Paris, Frédéric Calandra, qui affirme aussi que c'est illégal de prendre les gens en photo et d'envoyer ces clichés. Il faut faire preuve, selon elle, de discernement et d'un peu de bienveillance.
Il y a des gens qui vont dénoncer un voisin qui sort tous les jours sans savoir que le voisin en question conduit un bus ou est infirmier ou est caissier ou caissière d'un supermarché. Ben, ceux-là, il faut plutôt les remercier. Les applaudir dès demain. Quand vous êtes parent d'un enfant, que vous êtes solo, ben, si vous sortez faire des courses, vous ne pouvez pas laisser l'enfant. Donc ce n'est pas du laxisme chez ses parents ou de l'inconscience, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
Le maire de Saverne dans le Bas-Rhin a lui aussi décidé d'alerter les 10 000 habitants de sa commune.
Le jour où j'ai décidé de réagir, c'est vraiment le jour où j'ai reçu pour la première fois des photos de voisins prises de derrière une haie en disant « voilà, mes voisins sont sortis, c'est pas la première fois aujourd'hui ». Et il m'a paru vraiment important de passer un message que chacun s'occupe de soi et de sa famille et de laisser faire les forces de l'ordre pour ce qui était le respect des confinements pour les autres citoyens.
Autre message, ne surtout pas surcharger le 17 qui est et qui doit rester un numéro d'urgence.
Évidemment, les précisions de Pauline Jacquot. Plusieurs pays d'Europe, à la faveur d'un ralentissement de la propagation du coronavirus, ont déjà pris ou s'apprêtent à prendre des mesures de déconfinement, en avertissant que la route vers la guérison et vers un retour à la normale sera encore longue. Après l'autorisation donnée hier en Espagne aux travailleurs de reprendre le chemin des usines et des chantiers à condition de porter des masques, l'Autriche a entamé à son tour un déconfinement, mais pour l'instant très prudent. Depuis hier soir et les annonces d'Emmanuel Macron, on ne compte plus les annulations en cascade de festivals. Les Francofolies de La Rochelle sont annulées. Elles devaient avoir lieu du 10 au 14 juillet. Annulation également des Eurokéennes de Belfort, du Main Square à Arras, d'Art Rock à Saint-Brieuc ou encore des Nuits de Fourvière à Lyon et du Festival d'Avignon, mondialement connu et reconnu. Cette annulation, Nathalie Chevance, c'est un scénario catastrophe pour la ville.
Et oui, parce que chaque année, 700 000 visiteurs assistent au festival et en profitent pour rester sur place quelques jours pour faire du tourisme dans la Cité des Papes et aux alentours. C'est un poumon économique. Et voilà donc 100 millions d'euros de recettes qui s'envolent pour les hôteliers, les restaurateurs. Plus de 1000 compagnies qui ne feront pas le déplacement. Quelques 200 théâtres qui resteront vides. Car Avignon, c'est bien sûr le festival in, les grosses productions, mais c'est aussi et surtout le off qui attire les foules. Une tragédie pour son président Pierre Beffet.
C'est extrêmement tragique pour tous les artistes qui doivent se produire à Avignon et qui ne pourront pas le faire. Ça l'est pour les théâtres qui vont se retrouver dans des situations financières très compliquées. Ça l'est aussi pour tous les commerçants d'Avignon, pour lesquels j'ai vraiment une pensée. Le off, c'est 1500 spectacles par jour. Hein, donc c'est même beaucoup plus gros que l'UIN. C'est l'endroit où l'ensemble des professionnels viennent repérer les compagnies, viennent chercher des spectacles qui ensuite vont être diffusés sur l'ensemble du territoire, en France et pas qu'en France d'ailleurs. Et il y a un impact direct, bien évidemment, pour les artistes. Et puis, il va y avoir un impact indirect sur la saison suivante, sur tous les spectacles qui ne pourront pas être joués. C'est un peu une double peine pour les artistes.
Pas de marché du théâtre et donc pas de représentation pendant des mois. Quant aux commerçants avignonnais, plus de 1500 impactés, ils vont perdre jusqu'à 45% de leur chiffre d'affaires annuel. Avec l'annulation l'organisation du festival.
Nathalie Chevance pour Europe 1. Et concernant cette fois le festival de Cannes, ses organisateurs sont en train de plancher sur de nouvelles formes, sans toutefois préciser pour l'instant de quelle forme il pourrait s'agir. Le Tour de France cycliste, lui, cherche une nouvelle date. Son report est inévitable. Il devait s'élancer le 27 juin de Nice. Alors sera-t-il reporté de 2 mois? Le journal Le Dauphiné annonce ce soir qu'il partirait finalement le 29 août de Nice. Axel May, pour l'instant, en tout cas, l'organisateur ne confirme pas, mais dès la mi-journée sur Europe 1, il évoquait déjà un probable départ à la fin de l'été.
Oui, les différents interlocuteurs joints aujourd'hui évoquaient déjà cette possibilité d'un départ reporté de plusieurs semaines, comme Emmanuel Hubert, manager de l'équipe Arkéa Samsic, celle du champion de France, Warren Barguil.
L'idéal de l'idéal, ça serait peut-être un départ du Tour de France fin août, oui.
Car pour l'instant, les coureurs français sont confinés, comme le reste de la population, au moins jusqu'au 11 mai. Et il leur faudra plusieurs semaines d'entraînement sur route avant d'envisager reprendre la compétition. Cédric Vasseur est le manager de la formation Cofidis, présente depuis plus de 20 ans sur le Tour.
Si on reprend un entraînement à l'extérieur le 12 mai, on peut estimer que début juillet, ils sont capables de mettre un dossard et de participer à des compétitions. Je ne dis pas le départ du Tour de France, je dis le départ des compétitions, parce que le Tour de France, c'est 3 semaines. Là, ça demande des reconnaissances, un travail en montagne, etc. Donc, pour le Tour de France, c'est quasiment 3 mois maintenant.
Alors ce soir, ASO nous a répondu pas de commentaire quant à un éventuel départ de Nice le 29 août. Ce qui est certain, c'est que retarder au maximum le début du Tour permet de se rapprocher d'autant de la fin espérée de la pandémie et donc d'organiser l'épreuve dans des conditions sanitaires acceptables.
Les précisions d'Axel May du service des sports d'Europe 1. Et on jette un œil sur la météo avec vous, bien sûr, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, ce sera encore une belle journée, mais avant l'arrivée de la pluie.
Oui, effectivement, Isabelle, la journée va commencer avec un ciel complètement dégagé. Demain, le soleil va briller sur toute la France. Alors attention, ça se gâte dans l'après-midi. Les nuages arrivent par le sud-ouest, sur la Gironde, le Limousin, les Landes. Le ciel va se couvrir assez rapidement. Et d'ailleurs, sur les Pyrénées-Orientales, il va pleuvoir demain après-midi. Des pluies qui, sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, pourront prendre même un caractère orageux. On aura des coups de tonnerre dans le sud-ouest hein, demain après-midi. Les températures, elles sont toujours froides. Demain matin, moins 2 à Charleville. Mézières, moins 1 à Clermont-Ferrand, 0 pour Strasbourg, 4 à Lyon, 5 à Paris et jusqu'à 12 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, 12 à 27 en moyenne, 12 pour Dunkerque, 17 à Boulogne-sur-Mer, là ça monte, ça se radoucit, 19 à Nice et à Lille, 21 pour Paris et la maximale, elle est pour Bordeaux avec 27 degrés.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et restez avec nous dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Thomas de Richebourg, le président de la branche environnement du groupe du même nom. On parlera avec lui du travail des éboueurs qui a été mis en avant hier par Emmanuel Macron dans son intervention. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et à 22h18, comme tous les soirs, on retrouve maintenant Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui se reprend ce soir malgré la baisse des cours du pétrole.
Oui, ça va mieux, ça remonte sur le Dow Jones, plus 2,39%. Wall Street avait baissé hier dans une petite séance de début de semaine. 23 950 points, le Dow Jones donc plus 2,39%, le Nasdaq plus 3,95%, c'est net, 8 516 points. Les premiers résultats trimestriels viennent des banques. Il ne s'est pas passé grand-chose dans le secteur bancaire. Des résultats en ligne avec des réactions plutôt en baisse. En fait, ce sont surtout les valeurs de technologie qui repartent en nette hausse. Apple, plus 5%, $287. 2,5 millions d'iPhone ont été écoulés en Chine au mois de mars. Et puis Tesla regagne 9%, $710 sur de nouvelles recommandations favorables de certains brokers. On note aussi Amazon qui remonte au plus haut de 2 283 $, malgré les restrictions, vous en parlez tout à l'heure, les restrictions de vente en France. Amazon profite toujours au niveau mondial du confinement. On a une hausse de 5% de la valeur ce soir. Et puis, des progressions de 3 à 5% sur Microsoft, sur Intel, sur IBM. Il y a un perdant, c'est le pétrole. Encore une fois en baisse, moins 7% le baril sous les $30 le Brent. On est même sous les $20 le WTI américain, malgré l'accord de réduction de production intervenu dimanche, jugé trop limité dans le temps. Exxon, du coup, perd 0,7% ce soir. Sur les devises, l'euro remonte un peu, 1,0975 face au dollar.
Et Didier, la bourse de Paris a également progressé, mais plus modestement, de 0,38%.
Effectivement, 4524 points, petite hausse, plus 0,38. Après un long week-end de 4 jours, la tendance est restée très prudente. Plusieurs gros dossiers quand même ont aidé le marché, en particulier Coface, plus 6%, Air Liquide, plus 5%, Hermès aussi, plus 5%, qui a vu ses ventes repartir en forte hausse en Chine à la réouverture des magasins. Hermès, plus 5% ce soir, Danone aussi, plus 4%, et puis Carrefour, plus 2%, en attendant les comptes trimestriels du groupe, ce sera pour la fin avril. Certains brokers anticipent une hausse de 3 à 4% de la croissance du groupe de distribution au premier trimestre.
Et l'exception du jour, c'est le secteur automobile qui lui est reparti à la hausse.
Oui, malheureusement, ça retombe lourdement avec toujours des immatriculations en berne. Peugeot, moins 5%. L'équipementier Valeo repère 4,5%. Valeo a annoncé ce matin renoncer à ses objectifs en 2020. Et puis Renault, moins 3%. Le groupe se recentre en Chine sur le compartiment électrique et des véhicules utilitaires. Renault, ce soir, à la clôture, encore moins 3%. Sur les autres places financières, c'est assez discuté en Europe. À la hausse, Francfort, plus 1,2%, Madrid, plus 0,5%, mais ça baisse à Bruxelles, moins 1,1%, ça baisse aussi à Londres, moins 0,8%, et à Milan, moins 0,4%. On rappelle le CAC 40 en hausse, timide de 0,38%, 4524 points.
Et ma langue a fourché, puisque je voulais dire effectivement que le secteur automobile était reparti à la baisse, n'est-ce pas Didier? Merci pour ce tour d'horizon, Didier Hameau de Boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité Éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le président de la branche environnement du groupe de Richebourg.
Bonsoir Thomas de Richebourg.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de la branche environnement du groupe de Richebourg, un groupe bien connu pour la gestion des déchets. Le président de la République a mis en avant hier le travail des éboueurs. Je crois que vous parlez de héros du quotidien. Comment ça se passe véritablement au quotidien?
Ils sont très fiers. Extrêmement fier, le soir à 20h, quand il y a les applaudissements, ils se retrouvent dans beaucoup de grandes villes de France, ils se font applaudir, ils sont extrêmement fiers. Et évidemment, comme l'a dit le président hier, ce sont les hommes et les femmes au second plan. Au premier plan, il y a les aides-soignants, tout le personnel hospitalier. Et au deuxième plan, il y a tous ces caissiers, ces caissières, ces éboueurs, ces livreurs qui travaillent au quotidien, qui font en sorte que la France tourne et qu'on puisse être confiné chez nous et pour autant pouvoir se faire livrer, pouvoir avoir les services publics qui fonctionnent comme l'eau, comme l'électricité. Alors ils sont très fiers de ça. Après, il y a eu des inquiétudes. Il a fallu mettre...
Mais est-ce que c'est pas une fierté quand même un petit peu amère de gens qui étaient, il faut bien le reconnaître quand même jusque-là, peu considérés?
Ben oui, on découvre que nous sommes essentiels et qu'ils sont essentiels. Et que sans eux, ce serait l'insalubrité dans les grandes villes. Moi, je suis extrêmement fier de tout le travail qu'ils réalisent parce qu'ils sont... surprenants. Ils sont incroyables dans l'énergie qu'ils ont décuplée. Tout ça va changer. On va avoir un autre regard sur toutes ces personnes qui sont là au quotidien et qui font en sorte que le service public puisse se faire.
De façon très concrète, comment chez vous ils travaillent? Vous les avez équipés de masques, vous faites attention à ce qu'ils ne soient pas à moins d'un mètre. C'est quand même compliqué quand on est deux éboueurs à l'arrière d'un camion.
Alors, on a appliqué 100% des gestes barrières qui ont été préconisés par l'autorité publique. Nous avons organisé les tournées en décalé, c'est-à-dire qu'au moment du départ, le matin ou le soir sur le site, il y a très peu de personnes qui viennent, uniquement les chauffeurs qui se déplacent. Tous les lots de bord, les téléphones portables, les badges pour aller à l'exutoire sont mis directement dans leur véhicule. Ils arrivent sur le site, ils montent dans leur véhicule et ils récupèrent directement sur le terrain leurs éboueurs, leurs équipiers de collecte. Alors après, on a mis du gel hydroalcoolique dans chacun de nos véhicules. Ils sont équipés avec des visières. Nous avons fait une commande très importante de masques qui sont en train d'arriver. Alors tout ça a été un peu long à se mettre en place parce qu'il y a eu une réquisition au début. Il y a eu aussi des difficultés d'expédition là-bas en Chine. Donc ils vont arriver dans les quelques jours, dans les quelques semaines, mais déjà ils sont équipés tous à 100% de visières anti-projection. Ils ont des gants, ils ont du gel hydroalcoolique. Après, on a imposé le fait que personne ne soit à trois dans la cabine devant. Donc on respecte scrupuleusement les gestes barrières.
Est-ce qu'ils ont eu le droit à une prime, tous ces héros du quotidien, comme vous disiez, Thomas de Richebourg?
Alors, pour le moment, on est en discussion avec eux. Il est évident qu'il y aura quelque chose qui sera donné pour toutes ces personnes qui ont travaillé en seconde ligne. On est en train de voir, en fonction aussi de l'entreprise. Ce qu'il faut penser, c'est que le groupe de Richebourg, c'est 38 000 personnes. C'est qu'on a quand même 15 000 personnes qui sont en chômage partiel, qu'on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires aussi, que le plus important pour nous est la préservation de l'emploi. Mais pour les personnels qui auront été les éboueurs, les chauffeurs qui auront travaillé dans le service public au contact de la population, évidemment qu'il y aura une récompense qui sera faite et on est en train de voir avec toutes nos organisations syndicales les modalités.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, disait ce matin, il va falloir que nous payions mieux demain nos caissières, nos éboueurs, tous ces personnels. Au-delà des primes, est-ce que vous demandez à l'État de vous aider pour réussir à mieux rémunérer ces jobs?
Alors, ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles parce qu'on est tous régulés par une convention collective, par une tarification aussi qui a été donnée dans le cadre des marchés publics. Donc, toutes ces choses-là, si c'est un souhait du gouvernement de vouloir faire augmenter...
Mais vous l'appuyez? Si on vous aide, vous appuyez?
Mais je crois que qui n'a pas envie d'être mieux rémunéré dans le monde dans lequel nous vivons? Tout le monde a envie. Moi, évidemment, si le gouvernement décide de faire ce geste-là, c'est très bienvenu. Et au contraire, moi, je serais ravi, nous serions ravis de pouvoir rémunérer davantage l'ensemble de ces salariés.
On dit souvent que le niveau des déchets est un des éléments de l'activité économique. C'est-à-dire, plus il y en a, plus le pays tourne. Vous disiez que vous avez perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la collecte des déchets, notamment parce que les industries sont fermées en partie, c'est considérablement réduite?
Alors, il y a à peu près entre 20 et 30% de déchets en moins qui sont collectés. Pourquoi? Parce que ceux les plus gros, ceux qui produisent le plus de déchets sont les restaurants, ce sont les écoles, ce sont les crèches. Et comme tous ces commerces-là sont fermés, il y a à peu près 20 à 30% de moins à collecter. Alors après, il y a aussi beaucoup de facilité de pouvoir circuler dans les villes de France, puisque comme tout le monde est confiné, les collectes se font très rapidement. L'organisation que nous avons faite sur l'ensemble de nos collaborateurs a été extrêmement fluide.
Un tel recul des déchets, c'est historique de l'histoire du groupe de Richebourg?
Oui, c'est historique, parce qu'on n'a jamais connu une fermeture de restaurants, de théâtres, de tous les espaces culturels, de toutes les concerts. Ça n'est jamais arrivé. Moi, j'ai 42 ans, je ne l'ai jamais vécu. Vous non plus. Personne ne l'a vécu. Donc c'est quelque chose qui est complètement inouï. Donc on doit s'adapter, on doit réfléchir, on doit faire en sorte de pouvoir continuer de travailler en nous protégeant et en assurant le service public.
Enfin, toute dernière question, Thomas de Richebourg. Le gouvernement a beaucoup appelé à une réduction des dividendes, à ce que les chefs d'entreprise soient aussi exemplaires. Vous êtes un groupe familial du côté de Richebourg, l'un des plus grands noms en France de la gestion des déchets. Quelle politique avez-vous décidé d'appliquer?
On a appliqué ce qui a été recommandé par le gouvernement. On suit derrière le gouvernement. Il n'y en aura pas qui seront distribués cette année si le gouvernement décide qu'il n'y en aura pas. Je crois qu'on doit tous être exemplaires dans ces moments-là. Je crois qu'il faut être solidaire aussi de nos salariés et il faut tous qu'on fasse des efforts.
Un grand merci Thomas de Richebourg, le président de la branche environnement du groupe de Richebourg, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous et à demain Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. La photo d'un écolier, cartable sur le dos et masque sur le visage, est à la une de Libération qui titre « 11 mai, classe tout risque, déconfinement, l'école s'y colle ». L'annonce de la réouverture progressive des écoles à partir de la mi-mai divise, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, parents, corps médical, enseignants et politiques qui craignent qu'elle ne soit précipitée. Un retour en classe pas si simple, écrit Ouest France, tandis que Nord Littoral titre « École, le choix de Macron très discuté ». Déconfinement, les 11 questions du 11 mai, titre Le Figaro. École, masque, test, senior, à moins d'un mois de la date fixée par le président pour marquer le début d'une reprise de l'activité. Nombre d'inconnus demeurent, le journal les passe en revue. Concorde nationale, ce que Macron a en tête, titre le journal L'Opinion. Le président va réfléchir à la forme que pourrait prendre sa volonté de bâtir un autre projet dans la concorde pour l'après-crise, bien sûr. Alors que les Les Républicains récusent déjà toute idée de gouvernement d'union nationale. Macron sous pression populaire, titre pour sa part l'Humanité. Malmené par une défiance croissante, le président veut se réinventer. Toujours des paroles et toujours des promesses, écrit le journal. Et puis la pire des récessions, titre Les Échos, qui nous rappelle que le FMI prédit la plus forte récession mondiale depuis les années 30 et que Bercy table sur un recul du PIB de 8% cette année et sur un déficit de 9%, c'est du jamais vu depuis 1945. Notre-Dame, un an après, titre le journal La Croix, avec une photo de la cathédrale en arrière-plan et des Parisiens qui passent, masque sur le visage, devant, d'un embrasement à l'autre, écrit Florent Courait. Il y a un an, c'est la virulence d'un incendie qui laissait Notre-Dame sans toit. Un an plus tard, c'est un autre événement, une catastrophe d'une autre ampleur, avec chaque jour son décompte macabre qui cueille le monde dans sa course et le contraint à l'arrêt. Le coronavirus bombarde nos défenses et nos boucliers habituels. Le Covid-19 nous tombe sur la tête. L'homme est à découvert sans toit. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, passé de quelques secondes, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie d'Olivier Delacroix que vous retrouvez pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.